Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une histoire que j'ai lue dans le quotidien belge Le Soir et dont j'ai trouvé des traces dans les Inroc et aussi sur le site Topito, à l'intérieur d'un top 10 des pires procédures de licenciement qu'on ait jamais connues. Licencié par SMS, licencié par disparition soudaine de l'entreprise, licencié par Facebook et même en direct à la télévision. Drôle de classement, mais bon. Nous sommes pour l'instant à Singapour, il est 16h dans cette entreprise qui emploie 5000 personnes lorsque l'alarme incendie retentit, forçant les employés à évacuer les lieux rapidement. Suivant la procédure habituelle, ils se retrouvent à l'extérieur du bâtiment et attendent sagement de pouvoir rentrer reprendre leurs tâches. Une dizaine de minutes plus tard, voici qu'ils entendent à travers un haut-parleur un message qui leur est adressé par un agent de sécurité de l'entreprise. Voici le message. « Chers employés, c'est avec émotion que je vous annonce que pour beaucoup d'entre vous, c'était la dernière évacuation. À cause de la crise, nous devons nous séparer d'environ la moitié des effectifs. En rentrant, si votre badge ne fonctionne pas, c'est que vous faites partie de cette moitié et vos affaires vous seront renvoyées par courrier demain. » Nous avons agi de la sorte pour éviter de remplir les boîtes aux lettres de mails d'adieu par milliers et aussi pour éviter des disputes dans les locaux. Nous vous souhaitons une bonne poursuite de carrière. S'il vous plaît, entrez et tentez votre chance. À la suite de quoi, les employés, quoique sidérés, optent en pair et tentent leur chance. Une bonne nouvelle, conclut cyniquement certains récits, il y a 2500 personnes qui ne seront pas licenciées. Je précise que cette histoire est présentée par le site du quotidien belge de la façon suivante. Un licenciement est une épreuve toujours difficile à surmonter, mais certains employeurs ne font vraiment preuve d'aucun scrupule dans leur méthode. Tu m'étonnes, me dis-je en moi-même. Sauf que poussant un peu les recherches, estomaqué que je me trouve par une telle folie, je découvre que nous sommes face à ce qu'on appelle très exactement une légende urbaine, un hoax, une rumeur, qui circule sous diverses formes en réalité depuis 1994 dans les réseaux pas encore sociaux et sur le net depuis 2009 à la vitesse d'un éclair. En regardant de plus près, on s'aperçoit que la légende, bien décrite par les spécialistes, réapparaît à chaque fois dans des lieux en crise, en voie de désindustrialisation et à des époques de récession comme en 2008 ou 2009. Le fait même que des lecteurs, des journalistes, des rédacteurs en chef aient pu lire, écrire ou imprimer cette incroyable fable de licenciement et y croire, en dit aussi long sur la déshumanisation du monde de l'entreprise, sa violence et la folie des managers, sans parler de leur lâcheté, de leur cruauté et j'en passe, en dit aussi long, dis-je, que n'importe quelle histoire vraie. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, on parle donc de la violence en entreprise, mais en mode plus ordinaire, plus insidieux, plus dur, avec deux histoires de vrais petits chefs qui ont l'originalité de s'être repentis. Enfin, c'est ce qu'ils disent et ce qu'ils vont raconter à Lucia Sanchez sur France Culture jusqu'à 14h.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Frédéric, j'ai 52 ans et j'ai commencé à travailler à l'âge de 24 ans. Donc ça fait à peu près 26 ans que je suis dans la vie professionnelle. J'ai commencé par des fonctions purement commerciales dans différentes sociétés de technologie. Et ensuite, j'ai vite dérivé sur des modèles de management et j'ai encadré mes premières équipes à l'âge de 32 ans. 10 commerciaux pour être précis, sans véritablement de formation. J'étais assez jeune en fait. Donc j'ai essayé de structurer et de faire au mieux, parce que bien sûr dans cette mission-là, vous êtes nouveau manager, 33 ans, vous êtes nommé, la société attend beaucoup de vous, et vous essayez de faire de votre mieux et d'apporter toute cette équipe au succès. Donc je me suis très vite heurté à des situations où mes objectifs de temps, de chiffres, de carrière dans l'entreprise n'étaient pas forcément partagés par les gens que j'avais dans mon équipe. Mais il y a des gens qui étaient en opposition en permanence avec le management. Donc on pouvait avoir parfois des décalages sur mes objectifs et leurs propres objectifs. Dans cette fonction de manager, encadrer des gens, il y a un côté satisfaction qui est très intéressant dès qu'on développe des gens. Mais il y a tout un côté qui est émotionnellement difficile à vivre. C'est tout le côté où on met des personnes en détresse. Et parfois, par des actes qui vous paraissent anodins, vous, et qui sont des actes isolés, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur des gens. On ne se rend pas compte, un simple mot peut faire exploser une personne. Un simple geste ou un simple blâme qui pourrait être anodin ou une blague pourrait avoir un impact qui est catastrophique et qui est vraiment dévastateur sur les individus. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'apprendre, ça. Donc, comment je l'ai appris? Parce que, effectivement, j'ai vu des gens en détresse dans mes équipes. Des gens qui perdaient complètement le contrôle d'eux-mêmes, des gens qui étaient tristes, des gens qui étaient déprimés, des gens qui n'avaient plus envie de travailler, qui n'avaient plus envie de donner de leur motivation à l'entreprise. Et je comprenais pas ça. Et ça, je l'ai réalisé par la suite. Et j'ai réalisé que ces gens-là, qui étaient l'ombre d'eux-mêmes, si je peux vraiment le dire comme ça, j'en étais l'auteur. Il se trouve que dans les années 2007, j'ai eu à encadrer une personne commercialement qui s'est effondrée, qui s'est mise à pleurer dans mon bureau. Et j'ai pas compris en réalité, j'ai pas compris que cette personne puisse se mettre en détresse. J'ai vu une personne en détresse et moi j'étais plutôt orienté sur le résultat de l'entreprise, comment augmenter les ventes, comment augmenter le chiffre, comment augmenter sa productivité. Et je me rendais pas compte en réalité que j'avais en face de moi une personne qui souffrait. Sur une simple brimade en lui disant cette façon de faire n'est pas la bonne. J'étais assez direct en fait, en réalité. Hein. J'étais assez direct, j'entourais pas les mots. C'est-à-dire que j'étais très, très cash. C'est ce que t'as fait, c'est de la merde. Voilà, j'aime pas cette façon de faire. Ben, cette personne est partie complètement en perte de contrôle d'elle-même. Et pour autant, c'était quelqu'un qui était relativement calme, qui avait une cinquantaine d'années, qui était posé, et qui s'est littéralement mise à exploser dans mon bureau. Et là, j'étais complètement désarçonné, j'avais pas forcément les outils. Mais c'est marrant parce que ça m'a pas réellement affecté. J'en ai rigolé. J'ai eu une espèce de pointe de satisfaction de me dire « j'ai quelqu'un qui a pleuré dans mon bureau ». C'est terrible, hein ? Pour montrer à quel point le pouvoir peut être grisant ou en tout cas peut faire perdre la notion de la réalité, je me suis dit, mais lui qui est si costaud, si grand, si charismatique, il s'est mis à chialer dans mon bureau. Et c'est vraiment les mots que j'ai utilisés. Parce que j'étais jeune, fougueux, pas dans cette logique. Donc quand la personne est revenue au bureau, j'ai eu zéro état d'âme. J'ai pas eu de compassion, j'ai pas eu d'affectif. Je me suis même dit qu'il fallait que je m'en sépare parce que si elle s'était absentée pendant 6 mois, elle serait absentée. Donc j'ai pensé à l'entreprise, à la productivité et à la capacité à l'entreprise de se remettre. C'est que plus tard, je me suis questionné par rapport à ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment fait du mal à quelqu'un ? Et c'est pas moi, ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens. Et me dire que dans des périodes de ma vie, j'ai pu avoir des gens qui m'ont détesté, qui m'ont haï, ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre par la suite. Et les entreprises dans lesquelles on est vous forcent parfois à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc elles déshumanisent un peu la personne que vous êtes. Bien souvent, j'ai entendu « ce mec est fou, c'est un taré, c'est un connard ». Voilà, donc voilà les trois adjectifs qui sont revenus le plus souvent sur la définition qu'on a fait de moi. Et paradoxalement, toutes les entreprises pour lesquelles j'ai bossé ont dit « ce gars est génial, c'est quelqu'un qui sait revitaliser des équipes, qui sait redynamiser des forces de vente, qui remet du punch dans des équipes ». Donc vous voyez un peu la dissonance qu'il peut y avoir entre la base de l'entreprise et le haut de l'entreprise. Alors moi j'ai appris un mot dans ma carrière, c'était le mot « revitaliser ». J'ai souvent posé la question, j'ai dit, mais tu entends quoi par revitaliser ? Alors je voyais des gens qui souriaient les uns par rapport aux autres, puisqu'ils connaissaient ce mot, c'était un espèce de mot code qu'ils avaient tous entre eux, et j'ai compris par la suite que revitaliser, ça voulait tout simplement dire, ça voulait dire virer, hein, ça voulait dire changer l'équipe, enlever ceux qui n'étaient pas performants, remettre des gens performants dans le système, etc. Donc, revitaliser. Donc je savais que c'était pas bien, mais j'ai jamais eu honte. J'ai jamais eu de remords. Pourquoi ? Parce que j'étais totalement conforté dans mon ego de vouloir réussir. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est dans un système qui vous tire à développer un ego surdimensionné, et cet ego vous aveugle et vous permet même pas d'avoir honte ou d'avoir un quelconque remords ou un regret. Je me suis souvent répété que ma façon de manager les gens, ma façon de diriger ces gens, c'était pas la bonne approche. C'était pas bien. Mais c'est justement tout le paradoxe de la situation. On se dit que c'est pas bien, mais on le fait quand même. Et en même temps, nos managers nous disent « bah tiens, t'es au succès, tu vas être promu, tu vas etc. » Donc, problème avec l'âge, avec la sagesse, avec le fait d'avoir une famille, etc. Le fait de fonder une famille m'a transformé. Quand on a des enfants, il y a une façon de les élever, de les éduquer. Je me suis dit que je pouvais pas être comme ça. Donc, j'ai cessé. Donc, un jour, un matin, j'ai dit, je veux plus faire cette sale besogne, ce sale boulot de revitaliser, de remettre en place des équipes. J'ai décidé de me sacrifier, je suis parti. Mais voilà, c'est arrivé comme ça. Un matin, vous dites, je suis un sale type. Je m'en vais et je rebondis ailleurs, je vais faire autre chose dans une autre société. Moi, sur le plan personnel, je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. C'est cette dualité qui est terrible. C'est d'avoir cette posture en entreprise qui n'est pas la posture que j'ai à l'extérieur. Donc vous êtes dans une espèce de posture qui vous détruit. Et à un moment, vous prenez conscience que ça va trop loin et vous arrêtez. Et j'ai tenté de travailler sur un autre pan du management, qui est le management par la bienveillance. Et donc je me suis véritablement rendu compte qu'en appliquant ces principes tout simples, qui étaient bienveillance, aimer les autres, transmettre les autres, essayer d'obtenir le meilleur des autres, bien finalement ça amène des gens au succès, ça épanouit des gens et ça produit des employés qui sont engagés pour les entreprises. Et je pense que beaucoup d'entreprises en ont pris conscience et commencent à sanctionner les managers déviants, les managers toxiques, les managers qui managent par la pression, par la tension, tout cela commence à être sanctionné. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate dans la plupart des entreprises que je vois autour de moi. Il y a une vraie prise de conscience que ces comportements déviants et toxiques n'ont plus lieu dans les entreprises. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui m'a toujours dit « Fred, si tu veux que ton équipe réussisse, performe, t'amène au succès, fais en sorte que tes gars t'aiment. » Vraiment, j'ai eu des gens qui m'ont dit « On a envie de bosser avec toi. » Et quand les gens vous disent ça, vous dites finalement « Waouh, là j'ai réalisé quelque chose de bien. » C'est que les gens ont envie de travailler avec moi, ils ont envie de partager, ils ont envie d'échanger. Et ça, pour moi, ça, c'était vraiment le déclencheur. Et petit à petit, je me suis dit bah, « Tiens, on va cultiver cette bienveillance. » C'est écouter les gens, essayer de savoir ce qu'ils ont envie de faire, essayer de savoir comment ils ont envie de le faire. Leur donner des espèces de feedback, non pas sur ce qu'ils font de mal, mais sur ce qu'ils font de bien. Il ne faut pas travailler sur ce qui n'est pas bien. Il faut travailler sur ce qui est bien. Je me dis souvent, la personne qui ne réussit pas dans une équipe, c'est souvent le miroir du manager qui a raté quelque chose. C'est que la personne ne lui a pas donné les bons outils. Il n'y a pas de mauvaise personne. Hein. Il n'y a que des personnes qui ne sont peut-être pas au bon poste. Peut-être que la personne, le job qu'elle fait, ça ne lui plaît pas. Moi, j'ai été révélateur de personnes qui n'étaient pas au bon job. Ou en creusant, en travaillant avec eux, en se disant « Mais qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi qui te fait le matin de sourire? C'est quoi qui te plaît le matin quand tu te réveilles ?» Et j'ai réussi à révéler des gens qui se disaient finalement « Waouh, bah t'as raison Fred, peut-être que je me suis menti à moi-même pendant beaucoup d'années, peut-être que je fais un job qui ne me plaît pas en fait. » Et quand on arrive à ce niveau d'intimité avec la personne, là je pense qu'on a réussi quelque chose. Je pense qu'une moitié de ma carrière, j'ai été un petit chef. Une autre moitié, je suis devenu un grand chef. Donc, ouais, c'est vrai, petit chef à pouvoir, petit chef qui impose son idée, petit chef qui joue de son autorité. Moi, quand j'étais un petit chef, tout ce qui m'animait, c'était tout le décorum autour du petit chef. Le bureau un peu fermé, grand, que les gens puissent taper à la porte pour vous parler, ou que les gens vous regardent avec une espèce de frayeur dans le regard. Voilà, tout ça fait partie du pactage horrible du petit chef. Moi, j'ai souvent eu comme défaut, comme travers, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, de vouloir imposer mon mode de pensée. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir, on manage des gens, et on imagine que les gens, en fait, finalement, vont penser comme vous, en fait. Et dès que les situations sont conflictuelles, ou en tout cas qu'il y a un désaccord tout simplement de point de vue, on a toujours tendance à vouloir faire sortir ces barrettes de pouvoir. Dire finalement, c'est moi le boss, et j'ai raison. Le boss a toujours raison. Et bien souvent, sur des décisions qui étaient sur lesquelles on pouvait discuter, avoir des points de vue différents, je me suis trouvé dans des situations à dire « Écoute, c'est comme ça, c'est moi le boss. J'ai pris la décision. Tu ne la discutes pas. C'est ma décision. » Et c'est important de dire « C'est ma décision. » Ça ramène tout ce qui va avec l'ego. Hein. « C'est ma décision et ça ne se conteste pas. » Et c'est très marrant de voir à quel point c'est ce pouvoir-là peut-être grisant, on a envie de l'utiliser sur les gens. C'est terrible. Alors, je ne dis pas que ça ne démange pas. Hein. C'est comme un espèce de diable, un démon que vous avez au fond de vous. Mais je reprends le contrôle de moi-même, la maîtrise, en disant « Non, mais tu ne peux pas dire ça, stop. » Écoute son point de vue jusqu'à la fin. Il y a peut-être du rationnel dans son idée et peut-être que son rationnel va te permettre de changer d'idée. Mais il y a une espèce de force au fond de vous qui dit « Mais tu ne peux pas changer d'idée, t'es le boss. » Et le boss a toujours raison. C'est difficile d'être le seul bienveillant dans une entreprise qui est malveillante. Vous êtes un espèce d'extraterrestre, on vous regarde un peu comme si vous étiez un illuminé. Mais lui, il a l'air gentil. Mais c'est fou l'image du gentil dans l'entreprise. C'est terrible. À croire que dans des entreprises performantes, il faut toujours faire la gueule, il faut jamais sourire, il faut toujours avoir l'impression d'être un dur, etc. C'est terrible. Moi, je me dis, le jour de ma mort, quand les gens seront au cimetière en train de m'enterrer, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? C'est la question que je me pose souvent. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi? J'aimerais qu'ils disent, il a fait du bien autour de lui, il est bienveillant, c'est quelqu'un qui a toujours pris soin des autres. C'est ça que j'ai envie qu'on dise. C'est pas, ouais, il a augmenté la productivité de l'entreprise. On s'en fout de ça.
Je m'appelle Atis Louis, d'origine turque en fait, je suis née en Turquie et j'ai grandi en France. J'ai eu une scolarité brillante, seulement j'ai pas pu faire de longues études en raison de mes parents qui étaient très conservateurs et pour eux les filles ne pouvaient pas étudier. Donc j'ai été indépendante financièrement très rapidement, ce qui m'a permis de m'orienter vers un BTS, ce qui fait une scolarité courte. Donc dans cet environnement très fermé, je ne m'étais pas encore découverte. Et en fait, en sortant de l'école, je me suis rendu compte que la vie active était un lieu d'épanouissement. Tout était possible, c'est-à-dire que vraiment le tout était possible a pris tout son sens dans ma vie. Il fallait simplement faire preuve de volonté, de travail, d'assiduité, de courage. J'étais dans mon élément. Je suis sortie de l'école, j'ai envoyé en masse des CV de partout, avec toute la rage dont je sais faire preuve quand je veux arriver à réaliser un rêve. Et le plus surprenant, c'est que tous les entretiens que j'ai passés étaient positifs. Et en fait, j'avais fait un stage durant mon BTS chez BBL, dans le transport. Eh bien, j'ai eu un beau matin le coup de fil de mon patron actuel. Il m'a appelé un beau matin en me disant « Tu avais fait un stage chez nous, où es-tu ? J'aimerais qu'on se voit parce que j'ai un poste pour toi. » Et quand je lui avais demandé « Oui, mais est-ce que je gagnerais bien ma vie ?» Il m'avait répondu « Moi, je ne te promets rien. Ta vie est entre tes mains. Donc, tout dépend de toi. » Alors là, cette phrase, elle est géniale parce que si tout dépend de moi, tout va bien. Je vais bien atteindre mes objectifs. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que je suis arrivée chez BBL, en tant qu'assistante commerciale, j'ai commencé à avoir un deuxième poste, un troisième poste, responsable marketing. Je suis partie ouvrir effectivement une filiale en Turquie. Et en fait, à 22 ans, on est juste insouciant. On ne voit pas ce que ça représente comme challenge. Au contraire, on voit que des petites étoiles de partout et on s'est dit « super, je vais partir pour une belle aventure ». Mais c'est marrant parce que je me rappellerai toujours quand j'ai pris l'avion et que j'avais cette peur au ventre de me dire « vais-je être à la hauteur ?». D'un seul coup, je me retrouve à 22 ans à la tête d'une filiale dans un environnement que je pensais connaître parce que je suis d'origine turque, mais qui n'était pas évident pour une femme, surtout dans le transport. Et en fait, c'était très difficile parce que j'avais pas d'expérience, je n'avais pas pris de cours de management. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que c'était que ce terme à l'époque. Donc, je me rappelle, dès que j'ai commencé à créer mon équipe, j'ai dit « Non, non, il faut me tutoyer, il faut m'appeler par mon prénom. » Et j'ai réalisé que, en fait, en Turquie, se laisser tutoyer, se laisser appeler par son prénom, c'est déjà commettre une erreur. Et donc, ce n'est pas réellement instauré une certaine, comment dire, légitimité, parce que la légitimité s'obtient également par la bonne distance. Alors, j'ai toujours vu que j'inspirais un profond respect, mais avec, comment dire, des personnes qui commençaient aussi à prendre des distances. C'est écoute, Atis, franchement, t'as beaucoup d'énergie, c'est génial, mais si ça te dérange pas, moi je préfère pas trop travailler avec toi, parce que tu comprends, c'est, je peux pas aller au rythme que tu m'imposes, sinon je vais craquer. L'intention de départ était de transmettre de ma force. Et j'avais envie d'en donner, de partager. En général, pour y parvenir, je les faisais se projeter sur l'avenir en disant où est-ce que tu veux arriver ? À quel poste tu veux parvenir ? Je faisais en sorte, s'ils n'avaient pas de projet établi, d'en créer un avec eux, de co-gérer leur avenir. En disant, tu n'as pas de rêve, t'inquiète pas, j'en ai pour 1000. On va rêver ensemble, on va parvenir ensemble à nos objectifs. Qui n'était tout autre que les miens, toujours. Et pour moi, crier était inconcevable, puisque j'ai toujours géré les éventuels coups d'humeur qui pouvaient arriver en moi, qui étaient effectivement dans mon ventre. En entretien, il m'est arrivé de faire pleurer sans même hausser le ton. Je touchais apparemment là où ça fait mal. J'avais une façon effectivement de provoquer les personnes pour essayer justement de susciter en eux une ambition, mais parfois qu'ils n'avaient pas. Donc c'était vain d'essayer, c'était vain. Là-dessus, je pense effectivement au début de ma carrière avoir fait pas mal d'erreurs. Et en fait, j'étais perçue par les autres avant comme l'impitoyable femme qui avait les dents qui rayaient le parquet, tellement elle voulait avancer. On me décrivait comme quelqu'un qui faisait quand même peur dans sa volonté d'avancer. Et en fait, je ne comprenais pas comment déjà je pouvais faire peur, parce que tout ce qui m'animait n'était que le fruit d'un combat pour réussir, pour faire réussir l'entreprise, pour que les collaborateurs réussissent, pour leur permettre d'évoluer, d'occuper de nouveaux postes. J'avais l'impression que tout le monde était obligé d'être ambitieux, en fait. Je me souviens d'une jeune femme en Turquie qui n'avait pas l'expérience dans le transport et qui travaillait pour gagner sa vie. Et donc cette femme-là voulait le plus tôt possible arrêter de travailler pour élever des enfants, être dans sa cuisine. Et c'était le schéma qu'elle avait de la femme. C'était son schéma. Comme c'était pas le mien, eh bien, je pensais qu'il fallait que je lui ouvre les yeux. Donc c'est arrivé à deux reprises qu'elle ait pleuré en m'expliquant qu'elle était ravie de tout ce qu'elle avait fait chez nous, mais que je n'étais pas pour elle un modèle à atteindre. Et j'étais perplexe. J'ai eu la prise de conscience que je poussais les gens à être ambitieux. J'en ai pris conscience parce que j'ai souvent tendance à vraiment penser qu'il n'y a pas de limite réelle entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et certains collaborateurs que j'ai vus partir étaient très précieux pour moi. Mais vraiment personnellement précieux. Ils faisaient partie de mon histoire, ils faisaient partie de mon existence. Il faisait partie de ce qui m'a aussi en partie construit. Et pour moi, c'était un échec de voir partir des personnes. Alors, les départs que j'évoque, en plus, curieusement, n'étaient pas forcément des départs que j'ai provoqués. C'était des départs tout simplement parce que l'entreprise a un côté un peu impitoyable de « il faut avancer, prendre le train en marche, sinon on reste sur le côté ». Et j'étais tellement affectée. Une voix intérieure me disait « mais... c'est pas possible, ils auraient pu rester dans le train. Et on n'a pas fait en sorte qu'ils restent, quoi. Et pour moi, c'était là-dessus qu'il fallait qu'on travaille. Et je me suis dit que, oui, je suis effectivement très déterminée à atteindre mes objectifs. Tellement déterminée qu'il fallait que je change pour y arriver. Et donc, ma gestion d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Mon approche est différente, l'objectif est toujours là. Donc, il y a des performances à atteindre. Mais, justement, j'y arrive tout simplement par le fait de me concentrer sur les qualités de la personne, au lieu, comme avant, de me dire « il faut que je change ses défauts ». J'essaye de comprendre comment la personne peut réellement atteindre l'objectif, c'est beaucoup plus constructif. Par contre, on s'inscrit dans un collectif. On ne laisse pas la personne seule devant ce qu'elle doit atteindre. C'est comment on peut y arriver ensemble. Aujourd'hui, effectivement, quand en entretien de recrutement, j'ai des personnes qui me disent « moi, je compte pas mes heures, moi, je suis quelqu'un qui dort presque pas, j'arrive tôt, je termine tard, vous pouvez compter sur moi, je vais être la merveille du monde », j'ai juste envie de dire « et vous avez quoi exactement comme problème ?» Nous, on n'a jamais cherché des killers. Aujourd'hui, nous, on cherche des personnes compétentes qui ont envie de construire avec les autres. Parce que combien de fois je me suis dit « mais mince, c'est dommage, on a effectivement une personne qui est dans un haut degré de compétence, mais par contre, la communication et savoir travailler avec les autres, pas du tout. Et sans s'inscrire avec les autres, on ne parvient à rien. » Et donc, au départ, je pensais que l'ambition et l'urgence, la niaque, étaient la solution. Or, ce sont les problèmes. Ce ne sont pas les solutions. Les solutions sont ailleurs.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre et des petits chefs repentis. Un reportage de Lucia Sanchez réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Stéphanie Rouels, à Élisée Coaching et à Gaëlle Châtelain. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Et Céline Autin, c'est notre stagiaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook désormais unique qui vous attend nombreux, ainsi qu'un compte Twitter et bientôt un compte Instagram.